tous les dimanches de l'été sur Europe 1.
10h, 11h, les grands entretiens de Charles Villeneuve.
Tout cet été, chaque dimanche, pendant environ une heure, je vous propose un grand entretien pour prendre le temps de traiter des grands thèmes qui ont rythmé l'actualité de ces derniers mois. Politique, relations internationales, énergie, santé, sport. Nous parlerons de tous ces enjeux et des conséquences qu'ils ont dans notre quotidien. C'est le dernier des grands entretiens de l'été d'Europe 1. Et pour décrypter la nouvelle donne politique issue de la présidentielle et des législatives, avec laquelle Emmanuel Macron devra essayer de gouverner, nous avons choisi Jérôme Fourquet, directeur opinion de l'IFOP, surtout l'auteur essentiel à la compréhension du processus de décomposition et de recomposition du paysage politique français. Avec ses deux livres, L'archipel français, puis La France sous nos yeux, coécrit avec Laurent Casly, Jérôme Fourquet nous a mis sur la piste des mouvements tectoniques auxquels nous assistons, c'est-à-dire l'explosion du Front républicain qui a généré la percée forte et inattendue du Rassemblement national, le net déplacement du centre de gravité de la gauche vers la gauche radicale, vers la France insoumise, réduisant le PS à la portion congrue, et enfin la déconvenue du parti du président. Ce qui nous impose, Jérôme Fourquet, à vous poser cette première question. Est-ce que la France ne va pas être très difficile à gouverner ?
Alors bonjour, c'est le diagnostic qu'on avait posé juste avant les législatives. Le résultat des législatives, avec cette Assemblée nationale où il n'y a plus aujourd'hui de majorité absolue, rend de facto, et j'allais dire techniquement, la France plus difficile à gouverner et la majorité présidentielle s'en rend compte tous les jours, puisque il y a bataille d'arguments d'amendements sur bataille d'amendements et que l'Assemblée n'est plus une chambre d'enregistrement. Mais parallèlement à cette nouvelle donne parlementaire, le caractère ingouvernable de la société française doit se lire aussi dans la société elle-même, et pas uniquement dans l'hémicycle, se lire dans la rue. Et donc on voit que nous avons une France qui est archipélisée, qui est morcelée, qui se recompose.
C'est-à-dire divisée.
Qui est divisée avec des forts affrontements entre des blocs, le bloc macroniste, la gauche rassemblée qui pèse un gros quart de l'électorat, la droite, le Rassemblement national qui lui aussi est entre 25 et 30%. Et donc tout ça rend le pays très, très compliqué à administrer, à diriger. On se souvient, il y a un an maintenant, qu'en plein été 2021, nous avions plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens qui défilaient contre la mise en place du pass sanitaire, par exemple, en plein cœur de l'été. Nous allons, en cette rentrée, affronter un contexte économique qui est inédit, c'est-à-dire le retour de l'inflation, avec des très fortes tensions sur le pouvoir d'achat. Donc tout ça crée les conditions d'un exercice et d'une direction d'un exercice du pouvoir et d'une direction du pays qui va être, on va dire, très très sportive et très très compliquée dans les mois qui viennent.
Alors justement, vous l'avez abordé, le gouvernement d'Elisabeth Borne ne dispose au Parlement que d'une majorité relative. Bon. Et peut-il, dans ces conditions, faire voter un programme de réforme, un vrai programme de réforme cohérent, ou va-t-il être contraint pour survivre à céder aux surenchères des oppositions et à poursuivre la politique du quoi qu'il en coûte?
Alors la politique du quoi qu'il en coûte, avant même de parler de son acceptation parlementaire, il faut voir sa soutenabilité économique. Est-ce qu'on a encore les marges de manœuvre et les moyens nécessaires pour mener cette politique? Énormément d'argent a été dépensé, d'abord de manière justifiée dans l'accompagnement du pays pour traverser la crise du Covid, ensuite avec les prémices de la crise inflationniste. Mais vous voyez que toutes les mesures sur la ristourne carburant, le chèque transport, les allocations de rentrée scolaire, le chèque alimentation pour les plus modestes, tout ça se chiffre au final en dizaines de milliards. Et donc, il y a fort à parier qu'au bout d'un moment, les marges de manœuvre budgétaires vont s'épuiser.
C'est-à-dire que les choix budgétaires vont être très différents de ceux qui ont été pris.
Alors, il y a des choix qui devront être faits, et on constate que jusqu'à présent, la nouvelle Assemblée s'est à peu près entendue sur des mesures qui étaient consensuelles, qui consistaient à ouvrir le carnet de chèques.
Le pouvoir d'achat.
Sur le pouvoir d'achat, hein, ce qui pouvait s'entendre. Mais donc là, on va rentrer, si je puis dire, dans le dur, et ça va être beaucoup plus compliqué. Alors là, de deux choses l'une, les réformes, pour répondre à votre question, les réformes ne peuvent être menées que au prix ou grâce à un accord avec les Républicains. On voit mal la NUPES ou le Rassemblement National donner un coup de main au pouvoir macroniste qu'il déteste. Et donc de là, de deux choses l'une...
Ils ne sont pas seuls d'ailleurs. Hein.
Non, non.
Mais on en parlera d'ailleurs, voilà. De la détestation du chef de l'État.
Tout à fait. Et de là, donc, pour danser le tango, il faut être deux. Est-ce que les Républicains acceptent et sont prêts à jouer le jeu de, un peu comme ils l'ont fait sur le pouvoir d'achat, de soutenir la majorité, de lui donner l'appoint nécessaire au prix du fait qu'un certain nombre de sujets fétiches auxquels ils tiennent beaucoup soient repris dans le texte de loi. Et inversement, est-ce que la majorité présidentielle est prête à cette espèce de d'accord ou de pacte et revoit un petit peu sa copie, hein, puisqu'elle avait appris à gérer le pays avec une majorité absolue, et donc accepte de faire un certain nombre de concessions. Donc on en est là aujourd'hui. On voit, et ce qui peut faciliter les choses, c'est qu'un certain nombre de poids lourds de la majorité présidentielle sont issus des rangs de la droite républicaine. Je pense notamment en matière de réforme à Bruno Le Maire, mais on pourrait parler aussi de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Il y a Édouard Philippe qui n'est plus dans le dispositif gouvernemental, mais qui joue aussi sa propre
partie. Avec son groupe parlementaire Horizon.
Voilà, oui. une quinzaine de députés donc qui joue aussi sa partition. Donc, est-ce qu'on va vers cela ou est-ce que, au contraire, on est sur un blocage? Il y a un risque tout à fait identifié du côté des Républicains. Si jamais ils jouent cette partition-là, le risque, quel est-il? Eh bien, c'est qu'ils apparaissent comme une force d'appoint et ils soient en voie de, entre guillemets, digestion par la majorité présidentielle. Et donc, s'ils s'aventurent dans ce chemin-là, toute la difficulté pour eux, ce sera de parvenir à gagner la bataille de la communication et de l'opinion en disant « Nous sommes ceux qui avons fait avancer les sujets » et nous avons été non pas une force d'appoint, mais un aiguillon et un bouclier pour défendre les intérêts des Français et les intérêts supérieurs du pays. Et c'est grâce à nous qu'un certain nombre de projets de loi ont pu être remis sur les rails et aller dans la bonne direction. Vous voyez ce qu'ils avaient fait typiquement sur la défiscalisation des heures supplémentaires, par exemple. Et donc, soit on arrive, quand on est républicain, à faire entendre sa voix et montrer quelque part la plus-value qu'on a apporté à cet accord, soit on n'y parvient pas. Et on n'y parvient pas pourquoi? Parce que notamment les Républicains souffrent d'un déficit d'incarnation. Il n'y a pas de patron aujourd'hui clairement identifié.
On se rallie plutôt au chef qu'au parti d'ailleurs.
C'est souvent comme ça. Et donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de conditions pour que tout ça fonctionne de manière relativement efficace.
Alors, il y a une question que je voudrais vous poser tout de suite. Vous avez abordé le sujet, la question du pouvoir d'achat, qui est névralgique, finalement, dans la nouvelle composition de l'Assemblée nationale et qui est la préoccupation centrale des Français, notamment des classes moyennes et populaires. Alors, pourquoi la gauche apparaît-elle aux yeux d'une large fraction de cet électorat moins en situation de répondre à cette thématique que le Rassemblement national?
Alors, vous avez raison de souligner le fait que c'est devenu la priorité numéro un des Français. Il faut qu'on s'arrête un instant sur cette question, cette notion de pouvoir d'achat. Il y a deux dimensions, en fait. Il y a une dimension très basique, mais qui est très importante, et une dimension très, très classique, si je puis dire, c'est... pouvoir payer ses factures et remplir le frigo, subvenir à ses besoins. C'est ça le pouvoir d'achat. Bon. Et on comprend bien que ce soit important. Mais si on prend juste la définition étymologique, pouvoir d'achat, c'est pouvoir acheter. Et donc on est dans une société société de consommation, massivement. Le citoyen est devenu un citoyen consommateur. Et si son pouvoir de consommer, son pouvoir d'achat est entravé de quelque manière que ce soit, alors il en ressent une frustration immense parce qu'il a le sentiment que sa souveraineté est altérée.
Qu'il est déclassé.
Qu'il est déclassé. Il ne fait plus pas, s'il ne peut pas acheter, s'offrir ou acheter à ses enfants un certain nombre de marques ou de produits iconiques, eh bien, il ne coche pas les cases et il n'a pas le sentiment d'appartenir à la grande classe moyenne. Et donc, c'est pour ça que la question du pouvoir d'achat prend une dimension qui est éminemment politique. Si on ne peut pas faire ceci, alors on est déclassé, alors on est des citoyens de seconde catégorie. Alors, dans ce cadre-là, qui est le mieux à même de répondre à cette attente des Français ? Tous les grands partis politiques font assaut de propositions pour venir en soutien du pouvoir d'achat des Français. Et donc, on est dans une course à l'échalote sur des remises, des chèques, des allocations, des défiscalisations, etc. etc. On n'a pas le sentiment que les Français aient donné, un satisfecit particulier à telle ou telle formation politique. Encore une fois, chacune, dans son registre, a fait des propositions. Alors, on arrive du coup à votre question sur cette concurrence entre la NUPES et le Rassemblement National, notamment pour capter, le monopole ou la domination du vote dans l'électorat populaire et du bas de la classe moyenne. Il y a une très forte concurrence aujourd'hui entre ces deux formations. Si on regarde sur le papier, on pourrait dire que la NUPES est presque mieux disante sur le plan économique et social que le Rassemblement National. Pour autant, c'est le Rassemblement National qui vire en tête. Et donc,
pourquoi ?
Eh bien, parce que à côté de cette priorité numéro 1,
il y a une autre préoccupation.
Il y a d'autres sujets de préoccupation qui affleurent en permanence et qui sont les questions d'identité, de sécurité et d'immigration. Et là-dessus, toute une partie de l'électorat modeste et aussi de la classe moyenne considère que c'est le Rassemblement National qui est dans le vrai, qui est en phase avec ce qu'ils constatent de l'état du pays, quand ils ont beaucoup de doutes et d'interrogations face au positionnement et au discours tenu, par exemple, par la France insoumise. Quand on voit tout cet été, quand on voit tout cet été se multiplier les phénomènes de rodéo urbain, les attaques de commissariat,
ça pèse.
Les agressions au couteau qui vont parfois jusqu'à décès de une à plusieurs victimes. J'ai en tête ce qui s'est passé à Angers en début de l'été quand trois jeunes gens.
Et ça a pesé ça au moment des élections
tout
législatives.
Tout ça pèse. On fait un retour sur les élections législatives. Il y a un événement majeur, c'est le Stade de France. La finale de la Coupe d'Europe, avec ces images dantesques qui ont été, si vous voulez, une espèce de précipité de tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire une délinquance totalement débridée, une absence de maîtrise de l'ordre public par les autorités. Ensuite, le déni, un problème de fausse billetterie. Et puis, vous ajoutez la cerise sur le gâteau. Une à deux semaines après, on apprend que les bandes vidéo ont malheureusement été effacées. Et donc, tout ça a joué énormément dans la dynamique du Rassemblement National. Parce que dans le même temps, une jeune femme décédait lors d'un refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement de Paris. Les policiers qui étaient en charge de l'interpellation ont ouvert le feu. Cette jeune femme est décédée. À la suite de quoi, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il fallait la police tuait et qu'il fallait désarmer la police. Et donc, on peut être mieux disant sur le pouvoir d'achat, mais si on tient ce type de discours dans la société contemporaine qui est la nôtre, eh bien, on se rend totalement inaudible non crédible auprès de toute une partie de la population.
Donc ça a pesé.
Ça pèse.
Et ça continue de peser. Et
ça pèse énormément. Et donc, Gérald Darmanin, qui était à bonne école sarkozyste, a essayé d'occuper le terrain pendant tout l'été.
Il rattrape le temps perdu, là.
Sur tous ces sujets-là. Donc on peut dire, bon, on est dans le copier-coller, il reprend les recettes de son mentor. Mais son mentor avait, si je puis dire, déjà joué cette partition il y a 20 ans. Sauf qu'en 20 ans, la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Elle s'est considérablement dégradée. Et donc là, aujourd'hui, on n'est plus simplement dans des histoires de positionnement ou de communication politique. C'est aussi des réponses sur le fond qu'attendent les Français, parce que objectivement, la situation est bien plus dégradée et détériorée qu'il y a 20 ans.
Alors, on va passer à une autre partie, là, Jérôme Fourquet, parce que la France est dans une situation politique inédite, et notamment avec la séquence électorale de 2022, au-delà des résultats proprement dits, qui a été marqué par une forte abstention. On va l'analyser aussi parce que vous vous dites que finalement, on pourrait parler, c'est pas vous qui l'avez dit d'ailleurs, de fracture démocratique dans un instant.
Tous les dimanches de l'été sur Europe 1, 10h, 11h, les grands entretiens de Charles Villeneuve.
On va donc examiner dans cette deuxième partie comment la France s'est retrouvée dans une situation politique inédite. Je disais que la séquence électorale de 2022, au-delà des résultats proprement dits, a été marquée par une forte abstention. Et peut-on parler et faut-il parler de fracture démocratique ?
Alors, sur l'abstention, on peut commencer peut-être par une ou deux bonnes nouvelles en constatant qu'on a encore, et c'est heureux, 75% du corps électoral qui se déplace à l'élection reine, qui est l'élection présidentielle. Et donc dans beaucoup de démocraties occidentales, pour l'élection principale, on aimerait avoir 75% de votants. Donc tout n'est pas perdu. Mais c'est intéressant de se focaliser sur cette élection reine, puisqu'elle continue de garder un statut très particulier aux yeux des Français, puisque un mois et demi après, on avait des législatives, et donc c'est quand même des élections qui étaient chargées d'enjeux. On l'a vu, il n'y a plus de majorité absolue, c'est ces gens qui sont élus qui vont fabriquer la loi, et pour autant, on a simplement là eu un Français sur deux qui s'est déplacé. On avait eu 65% d'abstention il y a un an aux élections régionales et départementales. Donc on est dans un cycle de très forte abstention avec une seule élection qui est sanctuarisée, la présidentielle.
Mais justement, il y a une exception, c'est l'élection présidentielle. Et pourquoi les autres élections sont déficitaires ?
Alors pourquoi cette élection présidentielle ? Moi, c'est le syndrome que j'ai appelé « aller me chercher le patron ». C'est-à-dire que les Français...
Qui s'est comporté d'ailleurs complètement en patron.
Voilà. Les Français, une bonne partie d'entre eux, notamment dans les jeunes générations, entretiennent aujourd'hui un rapport qui est très distendu à la politique. Et le caractère très sacré du vote, le fait d'aller en famille un dimanche, avant on allait à la messe, ensuite on est allé à l'école ou dans le gymnase voter, tout ce rituel-là est aujourd'hui un peu démonétisé, un petit peu désuet. Et il garde une certaine importance uniquement à la présidentielle. Donc on est dans ce cycle abstentionniste avec un certain nombre de raisons. Tout d'abord... une part croissante de nos concitoyens considère que gauche, puis droite, puis encore gauche, et ensuite et gauche et droite, tout ça n'a pas changé ou amélioré leur quotidien. Et donc, ils en ont tiré la conclusion que tout ça ne servait à rien. Un autre ressort qui favorisait la participation, à côté de cette capacité de la politique à, comme on disait jadis, changer la vie, cet autre ressort, c'était l'appartenance partisane. On est d'une famille de gauche ou une famille de droite.
Voilà. Du parti aussi. Il y avait le patriotisme de parti.
Voilà. Ce ressort-là, il est aussi aujourd'hui, si ce n'est cassé, du moins...
largement atténué.
Largement atténué. Et puis, vous ajoutez ce que j'indiquais à l'instant, c'est-à-dire un renouvellement générationnel qui fait que les générations les plus âgées qui ont grandi dans le culte de la République, du suffrage universel, vous savez, ces fameuses phrases « certains sont morts pour que nous ayons le droit de vote », etc., etc. Donc il y avait une dimension très sacrée. Eh bien, ces générations les plus âgées sont remplacées progressivement par des générations qui entretiennent, je l'ai dit, un rapport très distendu au vote. Et donc tout ça conduit, hors période présidentielle, à une abstention qui est aujourd'hui massive. On pourra ajouter le fait, par exemple, pour les législatives, que nous avons aussi un certain nombre de réformes institutionnelles qui sont passées par là, qui s'appellent, par exemple, la fin du cumul des mandats, et qui faisaient que, historiquement, eh bien, on votait pour le candidat des Blancs ou le candidat des Rouges, mais on votait aussi pour son maire, son conseiller général, qui se trouvait être le député du coin, comme on disait. Bon, et aujourd'hui, avec cette disjonction, on a des personnages qui sont beaucoup moins identifiés et qui sont beaucoup moins implantés aussi dans les territoires.
On a affaibli quand même le mandat de député, puisqu'aujourd'hui, alors, le député n'a plus rien à voir avec l'exécutif local.
Alors, effectivement, la fin du cumul des mandats a fait perdre cette dimension, et donc on pouvait parler d'un affaiblissement du rôle du député, et c'était très vrai sous la mandature précédente, parce que c'était pour la première fois que nous avions assisté à la mise en place du non-cumul et à l'arrivée d'une majorité macronienne qui, pour beaucoup, était composée de gens qui venaient de la société civile et qui n'avaient aucun ancrage politique précédent.
Mais qui a fait aussi que le Parlement, c'est devenu une chambre d'enregistrement.
Et le Parlement, l'Assemblée, était devenue totalement une chambre d'enregistrement. Alors, il y a un détail qui ne trompe pas dans le petit microcosme, c'est que parmi les journalistes politiques, plus personne ne voulait être en charge des questions parlementaires parce qu'il ne se passait plus rien à l'Assemblée. Et donc là, par le miracle des urnes, on a une situation à l'Assemblée nationale qui est totalement inédite, avec une absence de majorité absolue dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est heureux, l'Assemblée nationale qui est redevenue le cœur battant de la démocratie française. Et donc, je nuancerai un petit peu le caractère un peu démonétisé du statut de député. C'était sans doute vrai sous la mandature précédente, ça l'est beaucoup moins.
C'est-à-dire que le Parlement peut reprendre vie, là.
Il est en train de reprendre vie. Alors, on n'est qu'aux prémices. On a eu l'arrivée du bruit et de la fureur. On va voir si on poursuit à la rentrée sur ce rythme-là. Mais on voit déjà que l'intérêt médiatique et l'intérêt d'une partie du public a été retrempé vis-à-vis de l'Assemblée.
Mais Jérôme Fourquet, il y a aussi un phénomène qu'on a pu constater dans la longue crise sanitaire, tout remontait à Jupiter.
Alors,
tout, le Conseil de défense, les décisions, on mettait finalement, on enfermait les Français, on les libérait à partir de la décision du chef de l'État.
Alors, ça a renforcé ce que j'ai appelé le syndrome « aller me chercher le patron ». C'est-à-dire que les Français ont déduit de cette crise sanitaire le fait que tout se passait en fait à l'Élysée. Vous vous rappelez peut-être, élément anecdotique, nous sommes à l'été 2021, encore sous période de couvre-feu sanitaire, et il y a une finale à Roland-Garros qui s'éternise et qui va déborder de l'heure du couvre-feu. Et donc, on apprend que la direction de Roland-Garros a passé un coup de fil dans les ministères et à l'Élysée pour obtenir la dérogation qui a été obtenue. Et donc, les Français en avaient déduit le fait que voilà, tout se passait.
Que Jupiter avait décidé, finalement,
alors ça, c'était
qu'on pouvait voir le match.
Voilà, on avait la permission de minuit. Ça, c'était le premier mandat d'Emmanuel Macron, avec, encore une fois, cette majorité parlementaire qui n'est plus absolue. Les cartes ont été totalement rebattues et toute une partie des pratiques macroniennes, c'est-à-dire qui avait donné une lecture très jupitérienne aux institutions de la Ve, eh bien aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Et si par malheur il y a une énième vague de Covid qui s'abat sur le pays, je pense que le rôle d'un éventuel conseil de défense à l'Élysée ne sera pas aussi omnipotent qu'il l'avait été lors de la période précédente. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée, on se fera entendre et on n'acceptera pas forcément de se faire déposséder de ce pouvoir-là.
Alors, Jérôme Fourquet, nous allons nous accorder une deuxième pause. Et pour revenir avec une question, en dépit de son large succès, le président Macron demeure rejeté par des pans entiers de l'opinion. Et on va voir à quoi ça tient avec vous dans quelques instants.
Europe 1, les grands entretiens de Charles Villeneuve.
Jérôme Fourquet, je disais donc qu'en dépit de son large succès à l'élection présidentielle, le président Macron demeure rejeté par des pans entiers de l'opinion. Depuis la crise des Gilets jaunes, persiste dans le pays un anti-macronisme parfois virulent. Pourquoi et comment vous expliquez ce phénomène ? Est-ce que le chef de l'État a les moyens d'enrayer ce phénomène ?
Alors, c'est très compliqué quand vous êtes victime ou l'objet d'une détestation qui est souvent assez profonde, assez enracinée, de quelque part de vous sortir de cette situation. Vous avez mentionné la crise des Gilets jaunes. J'évoquais tout à l'heure les manifestations en plein cœur de l'été 2021 contre le pass sanitaire, hein, alors que habituellement les Français sont sur la plage, il y en avait plusieurs dizaines de milliers qui battaient le pavé. On a vu les résultats des dernières élections. Alors j'insiste notamment sur deux scrutins. Le deuxième tour de la présidentielle, Marine Le Pen fait 41,5% des voix. Emmanuel Macron est largement élu, 58,5%. Mais vous avez une Marine Le Pen à 41,5%. Alors c'est à la fois dû à ses qualités propres, mais dû aussi au rejet très puissant qu'inspire Emmanuel Macron dans toute une partie de la population, qui a poussé un certain nombre d'électeurs qui ne sont pas forcément frontistes, soit à voter pour Marine Le Pen, soit, ce qu'on dit moins, à s'abstenir en disant « pratiquer le Front républicain me coûte trop », parce que ça voulait dire « donner ma voix à Macron ». On a eu le même phénomène aux législatives, avec des candidats de la majorité présidentielle qui ont été pris, j'allais dire, dans un tir croisé. Dans certaines circonscriptions, ils étaient face à la NUPES, la gauche, et toute une partie de l'électorat du Rassemblement national soit a voté pour ses candidats contre les candidats macronistes, soit s'est abstenu. Et dans d'autres circonscriptions, ces candidats de la majorité présidentielle étaient là, pour le coup, contre les représentants du Rassemblement national. Et dans ces endroits-là, c'est la NUPES qui, souvent, n'a pas voulu se salir les mains et qui n'a pas pratiqué le Front républicain par anti-macronisme. Donc cet anti-macronisme, il est là, il est très profond. On ne va pas refaire l'histoire de la Ve République, mais on a un pays qui a toujours été empreint d'une forte conflictualité politique et sociale. Hein. Ce n'est pas le premier président de la République à être suscité à un niveau de mécontentement et d'insatisfaction, on le voit dans nos enquêtes, mais il y a peut-être une dimension supplémentaire qui est liée à son parcours, à sa personne, le fait qu'il ait fait de brillantes études, le fait qu'il soit jeune, le fait que jusqu'à il y a peu de temps, tout lui est réussi. Tout ça associé à un certain nombre de petites phrases, on ne va pas les reciter ici, tout le monde les a en mémoire, tout ça a pu créer une forme de
rejet.
De rejet très forte et qui est une forme de rejet de classe, en fait. C'est notamment dans les composantes populaires, moyennes, et une dimension qu'on souligne assez peu, les moins diplômés de la population qu'il est le plus rejeté. Il incarne quelque part cette France d'en haut, la France à qui tout a réussi, les études, la vie personnelle.
Mais pas la France d'en bas.
Et pas la France d'en bas. Et ce qui était intéressant, c'est que historiquement, donc l'histoire, on ne remonte pas forcément très loin, en 2012, le deuxième tour Sarkozy-Hollande, on est encore dans la configuration classique, gauche-droite. On est à 52 pour Hollande, 48 pour Sarkozy. Eh bien, vous voyez que ce score d'à peu près 50-50, il est valide dans toutes les tranches de la population. Chez les cadres comme chez les ouvriers, à Paris comme dans les communes rurales, chez les diplômés comme chez les moins diplômés. On a une bourgeoisie de droite et une bourgeoisie de gauche. On a une partie des classes populaires qui sont sensibles aux questions de pouvoir d'achat, d'insécurité, d'immigration, qui votent Rassemblement National et qui, dans un deuxième tour, votent Sarkozy contre Hollande. Et donc, on a ces deux France encore qu'on connaît depuis la Révolution française, la France de gauche et la France de droite, qui se font face. Et donc, on est ce qu'on appelait, nous, dans une configuration de deuxième tour en silo. On a deux silos qui s'opposent. Et là, quand on regarde les résultats du deuxième tour de la présidentielle, alors, le rapport de force est plus déséquilibré, 58-42, mais ce qui est très frappant, c'est qu'on passe d'une lecture en silo à une lecture en mille feuilles. Qu'est-ce à dire? Eh bien, c'est par exemple que Emmanuel Macron fait 85% des voix au deuxième tour, plus de 85% des voix à Paris intramuros. Il fait 75% chez les cadres quand Marine Le Pen fait plus de 60% chez les ouvriers.
C'est-à-dire que finalement...
On a les deux France. On n'est plus la France de gauche et la France d'en haut.
Il est fort dans les grandes métropoles.
Dans les grandes métropoles, chez les plus diplômés, chez les retraités aisés, et la France que Guy lui appelle périphérique, la France des moins diplômés...
Et du monde rural.
La France des ouvriers, des employés, elle, majoritairement, parce qu'il y en a quand même une frange non négligeable qui vote pour lui, se reconnaît. Voilà. Et donc, on a cette dimension de classe, si vous voulez, ou France d'en haut, France d'en bas, qui antagonise énormément le sujet.
C'est-à-dire que vous êtes en train de poser une autre question, Jérôme Fourquet. C'est est-ce que le macronisme va survivre à Emmanuel Macron ?
Alors, ça, c'est la question.
Mais pas De Gaulle qui veut.
Non, exactement.
De Gaulle, il y avait un projet. Il n'a pas été élu sur un projet, le président
Alors,
actuel.
De Gaulle, il y avait un projet, il y avait une histoire, une relation très forte avec les Français. Et puis, il était parvenu à embarquer, si je puis dire, des pans entiers de la société française, notamment des élus. Et même si l'enracinement du parti gaulliste avait été un peu plus compliqué que ce qu'on pense parfois, les vieux partis de la 4e République dans les territoires avaient fait de la résistance. Pour autant, il y avait une force propulsive et il y avait une sociologie gaulliste. Et vous avez raison de poser cette question, parce qu'à mon avis, elle est centrale. Mais la réponse est compliquée. Elle est centrale pour la suite du processus. On est uniquement au début de la saison 2 du macronisme, mais notre constitution empêche un troisième mandat.
Et oui, c'est la dernière saison.
Et donc vous voyez bien que dans le camp présidentiel, les écuries se sont déjà constituées pour préparer la suite. Comme souvent en France, on est plutôt sur des querelles de personnes. Est-ce qu'on sera dans l'écurie Le Maire ? Est-ce qu'on sera dans l'écurie Darmanin ? Est-ce qu'on sera dans l'écurie Philippe ? Peut-être l'écurie Borne demain, on ne sait pas. Mais il faut bien voir que le macronisme avait réalisé une espèce d'alliage électoral inédit entre des centristes, une bonne composante aujourd'hui de gens qui viennent de la droite, et puis quand même des gens qui venaient de la gauche. J'ai regardé le CV ou le profil des députés qui sont élus sous l'étiquette Renaissance. Donc, c'est les macronistes de stricte obédience. Il y en a près de 40% d'entre eux qui ont un parcours politique qui les classe à gauche. À peu près 30% à droite, le reste au centre ou indéterminé.
Il y a une majorité de gauche, quand même.
Majorité relative parmi les députés. Et donc, est-ce que tout ça tient ? Vous avez vu que j'ai cité Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, c'est quand même plutôt des gens qui viennent de la droite. Est-ce que ces gens-là sont capables de reprendre le flambeau du macronisme et de continuer d'entraîner derrière eux à la fois la droite et le centre, mais aussi toute une partie de la gauche. Ou est-ce que tout cela n'aura été qu'une parenthèse longue, 10 années, et puis qui débouchera sur autre chose derrière ?
Jérôme Fourquet, je voudrais vous poser deux questions, et surtout une question à laquelle je souhaiterais, pour terminer cette séquence, que vous répondiez assez rapidement. Peut-on considérer, vous avez parlé de la percée du Rassemblement national, c'est une des grandes leçons des scrutins du printemps, l'enracinement du Rassemblement national dans le paysage politique français. Est-ce que l'accession au pouvoir d'un leader ou d'une leader du Rassemblement national est-elle désormais un scénario vraisemblable ?
Je le pense.
Quand je dis au pouvoir, c'est-à-dire
à la présidentielle, je le pense. Autant... Pour la séquence précédente, nous n'avons jamais cru à l'IFOP que Marine Le Pen pourrait accéder et gagner la présidentielle. Elle a fait 41,5% des voix, donc elle était encore loin. Autant, quand on met tous les éléments du Pulse sur la table, pour la prochaine échéance, et il faut être modeste et prudent parce qu'il peut se passer beaucoup de choses, mais ça devient une hypothèse de travail et une hypothèse qu'on ne peut plus écarter par construction d'un revers de main. Je trouve à titre personnel que les commentateurs sont passés très rapidement sur le score du deuxième tour de la présidentielle. C'est quand même 41,5% des voix.
C'est-à-dire une forte progression par rapport aux élections présidentielles précédentes.
Elle était à 34% en 2017. Si on remonte en arrière, 20 ans, 2002, première accession d'un membre de la famille Le Pen au deuxième tour, Jacques Chirac écrase Jean-Marie Le Pen par un score de 82 à 10 contre 18. Il a 20 millions de voix d'avance sur Jean-Marie Le Pen. En 2017, Emmanuel Macron avait 11 millions de voix d'avance sur Marine Le Pen. Et cette année, il y avait un écart de seulement 5,5 millions de voix. Donc on voit comment tout ça a fondu. C'est le premier élément. Deuxième élément, les législatives. 89 députés, le plus gros groupe d'opposition. Deux vice-présidences, Et donc, je serais tenté de dire que là, aujourd'hui, le RN est à la croisée des chemins. Il y a deux options. Il bénéficie d'une très forte dynamique, on l'a vu dans le pays, un enracinement très fort. Et donc, maintenant, de deux choses l'une. Soit il transforme son groupe parlementaire, 89 députés, qui lui permettent d'accéder à la bagatelle d'un financement public de 10 millions d'euros par an, ce qui ne s'est jamais vu. Soit ils transforment ça en une véritable machine de guerre, ils se professionnalisent comme jamais, ils font émerger des figures qui viennent flanquer Marine Le Pen en disant « vous n'élirez pas uniquement Marine Le Pen, mais vous avez déjà son gouvernement sous les yeux ». Et donc, avec cette machine de guerre et cette dynamique, la réponse à la question que vous posiez devient potentiellement positive. Soit, ce qui n'est pas à écarter compte tenu de l'histoire de ce parti, on retombe dans les ornières habituelles, népotisme, copinage, amateurisme, et on vit sur la bête pendant 5 ans sans rien construire de sérieux. Là, aujourd'hui, il ne reste plus pour le Rassemblement national qu'une marche à franchir. On l'a dit tout à l'heure, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter, donc ce rempart-là n'existera plus. Et donc, quand on met tout ça bout à bout, je ne dis pas que ça va arriver, mais ça devient une hypothèse plausible et une hypothèse de travail sur laquelle il faut se pencher sérieusement.
Alors on va continuer, Jérôme Fourquet, sur la droite, sur l'irruption forte du Rassemblement national, mais aussi on va parler des Républicains. Sont-ils voués à disparaître complètement? Et bien sûr, du recentrage de la gauche qui, mécaniquement aujourd'hui, fait que c'est une gauche forte, mais radicale, dure, et peut-elle être considérée comme, notamment avec la France insoumise, comme une sorte de garde rouge? On verra ça dans quelques instants.
Europe 1, les grands entretiens.
Charles Villeneuve.
Jérôme Fourquet, il y a une question avant toute chose, avant que nous revenions sur le Rassemblement national, mais surtout sur la NUPES, la NUPS, je ne sais comment l'appeler, c'est-à-dire le cartel des gauches réussi par Jean-Luc Mélenchon. Il y a une question que je voudrais vous poser. L'irruption à l'automne dernier d'Éric Zemmour a constitué un des moments forts de cette campagne électorale présidentielle. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette aventure?
Alors, qu'est-ce qui reste de cette aventure sur le plan organisationnel?
Terminé par un échec cinglant, il faut le dire.
Un double échec. Un échec à la présidentielle, 7% des voix. Alors, si on veut être un peu équilibré, on peut dire c'est très loin de ce à quoi il aspirait. Mais néanmoins, c'est plus que le score cumulé de Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse quand même. Donc c'est pas complètement ridicule, il est le quatrième candidat, mais on est sous les 10%. Et puis cet échec a été redoublé un mois et demi plus tard par la déconvenue des législatives. Aucun député élu, le député sortant qui l'avait rallié, Guillaume Pelletier, était battu dans sa circonscription, et lui-même, Éric Zemmour, se présentant à Saint-Tropez, a été battu durement, dès le premier tour. Donc, sur le plan électoral, c'est un échec.
Mais ce qui est intéressant, vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure, c'est que les idées au niveau de la sécurité, de la justice, c'est-à-dire ce qu'on appelle le régalien, ont compté, ont pesé dans les législatives.
Oui, alors très fortement. Mais il y a eu un vote utile en faveur du Rassemblement national. Alors, sur le plan électoral, il ne reste pas grand-chose. Sur le plan partisan, le mouvement Reconquête, Éric Zemmour avait dit « Moi, pendant la campagne, je suis différent des autres. Je ne suis pas un politicien qui a comme principale préoccupation de faire survivre sa boutique. » Il en est aujourd'hui réduit à cela, c'est-à-dire assurer la survie jusqu'aux prochaines européennes. Donc, je pense que, un peu comme le phénomène de Villiers, ça ne va pas laisser forcément de traces électorales durable. En revanche, il a ensemencé sur le plan idéologique comme jamais. Il avait déjà accompli ce travail.
Sur l'identité nationale menacée, de l'immigration et de la sécurité.
Quand on parle il a installé dans le débat public la question du grand remplacement, par exemple, ce concept-là qui était hyper sulfureux. Aujourd'hui, une majorité de Français disent oui, il y a un grand remplacement. Si vous voulez, il a fait franchir les limites. il a fait sauter toute une série de verrous. Et quelque part, il a été, je pense, un brise-lame pour Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'elle, elle s'est recentrée, mais il a, encore une fois, ouvert ce qu'on appelle en sociologie la fenêtre d'Overton. Overton disait, voilà, on rend dissible un certain nombre de choses qui ne l'étaient pas. Alors, il aspirait sans doute à ce que lui-même en soit le principal bénéficiaire, mais il a fait le boulot, si je puis dire, pour d'autres. Et ça, c'est à mon avis la grande trace que le zémourisme ou l'aventure Zemmour... Il a fait un boulot d'avant-garde idéologique et il a radicalisé, il a posé dans le débat un certain nombre de sujets. Et il a fait naître quand même un espoir certain, puisque la veille du déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, notre sondage Rolling IFOP quotidien indiquait que Éric Zemmour était à 16% d'intention de vote et Marine Le Pen à 16%. Donc sans l'Ukraine, l'histoire aurait sans doute été différente. Donc c'est facile maintenant de dire ça a été un échec, c'était voué à... L'histoire n'était pas écrite. Et donc s'il était aussi haut, c'est que ce qu'il a porté comme message résonnait dans toute une partie de la population. Et ça, ça n'a pas disparu.
C'est un facteur inattendu, la guerre d'Ukraine, qui l'a fait retomber.
Qui l'a fait chuter très durement.
Alors, une seule question avant de passer à la NUPES. La droite classique dans cette équation, est-elle encore une force politique nationale ou est-elle vouée à jouer un rôle de force d'appoint, comme c'est le cas actuellement à l'Assemblée nationale?
Alors, 65 députés, c'est pas rien, mais c'est quand même deux fois moins que lors de l'élection, la législature précédente. Et puis, vous parlez de force nationale. L'élection nationale de référence est la présidentielle. Le tarif pour Valérie Pécresse, c'est 4,7% des voix. Donc on est quand même à un niveau d'affaiblissement qui est historique, même si les LR parviennent à subsister dans certains endroits où il y a des fiefs, il y a des élus.
C'est l'implantation locale.
Voilà. Et donc, de deux choses l'une, là aussi il y a la croisée des chemins, soit les LR parviennent à montrer leurs différences vis-à-vis des macronistes, à mettre sur orbite un leader qui soit clairement identifié. Et donc, il y aura le début d'un chemin pour la reconquête d'une audience nationale. Ce n'est pas forcément la voie qui se dessine pour l'instant. Vous voyez que Xavier Bertrand a annoncé qu'il allait monter sa propre boutique. Et Laurent Wauquiez, autre figure importante des Républicains, a dit qu'il ne briguerait pas la tête de ce parti. Et donc là, on est pour l'instant dans un match entre Aurélien Pradier, Éric Ciotti et Annie Genevard, qui sont des personnalités respectables, mais qui ne sont pas forcément des personnes qui incarnent et qui permettent d'entraîner...
Est-ce que ce ne sont pas des batailles secondaires?
Le fait que deux poids lourds présidentiables, Bertrand et Wauquiez, se désintéressent de cela, montre que manifestement, l'histoire est en train de s'écrire ailleurs. Et donc, le deuxième scénario, s'il n'y a pas la reconstruction de cette force politique nationale, eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler le risque d'une PRGisation des Républicains, c'est-à-dire une survivance dans un certain nombre de fiefs locaux avec une absence d'empreinte nationale.
Jérôme Fourquet, vous qui êtes le directeur opinion de l'IFOP, à gauche, les scrutins de 2022 ont été marqués par la domination de Jean-Luc Mélenchon. C'est un fait.
L'extrême domination.
Comment interprétez-vous la force du vote Mélenchon, notamment dans les grandes agglomérations, Lille, Paris, Toulouse, et à contrario, sa faiblesse en milieu rural?
Alors, Jean-Luc Mélenchon a obtenu 22% des voix au premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Il avait fait 20%, près de 20% en 2017. Donc il conforte sa place de principale figure de la gauche française. Et donc il a construit ce succès à la fois sur la force de son parti, sur un ancrage politique très radical, et puis aussi sur un vote utile qui a fonctionné en sa faveur, très clairement, qui a asséché tous les autres petits candidats.
Il a redonné une espérance à l'électorat de gauche.
À la fois à la présidentielle, puis après, avec le coup de génie qu'on lui connaît, le génie politique, avec ce slogan « Élisez-moi Premier ministre » et la capacité à monter en 3 jours un cartel électoral que tout le monde pensait impossible.
Ça paraissait quand même gaguesque, mais ça a payé.
Bah, c'est 150 députés à l'arrivée, alors que avec le même score au premier tour des législatives qu'en 2017, alors que quand ils étaient partis, chacun sous leur propre drapeau, ils avaient les formations de gauche n'avaient obtenu qu'une soixantaine de députés. Alors,
mais la réalité de sa dynamique électorale.
Alors aujourd'hui, c'est l'électorat Mélenchon. Pour arriver à 22% des voix dans une société archipélisée, il faut agréger différentes îles et îlots de l'archipel. Alors, si on fait le détail par le menu de l'électorat mélenchoniste, on a quoi ? On a un électorat des grandes villes, qui est un électorat qu'on pourrait appeler, pour aller très vite, bobo, c'est-à-dire un électorat diplômé, pas forcément très fortuné, et donc ce qui le met en pole position dans toutes les grandes métropoles françaises, notamment les métropoles universitaires. Il capte là, on a parlé de vote utile tout à l'heure, toute une partie de l'électorat de la gauche des centres-villes. Toutes ces villes sont pour l'essentiel dirigées soit par les socialistes, soit par des écologistes. Ça, c'est la première composante de l'électorat mélenchoniste. Il y a une deuxième composante, c'est ce que nous on appelait le vote banlieusard, c'est-à-dire le vote des quartiers populaires. Mélenchon fait 49% des voix au premier tour en Seine-Saint-Denis. Carton plein, un mois et demi plus tard, aux législatives, la NUPES remporte les 12 sièges de ce département.
C'est quoi ? C'est un vote communautaire ?
Alors, on a un vote social d'abord, augmentation du SMIC, titularisation d'un certain nombre de personnalités.
Il fait un tabac dans les banlieues quand même.
Un tabac dans les banlieues, mais ce n'est pas uniquement, on va aller sur le sujet, il fait 69% au premier tour chez l'électorat qui se déclare de confession musulmane, ce qui est énorme.
69%.
Mais dans les banlieues, on ne peut pas réduire les banlieues uniquement à un vote communautaire aux musulmans. Il y a une dimension sociale qui est très forte. C'est les territoires les plus pauvres. Et quand lui parle de retraite à 60 ans, d'augmentation du SMIC, de titularisation...
C'est simple, mais ça paye.
Bah, c'est un discours de gauche classique, historique, qui faisait l'audience de la gauche dans toute une partie du monde populaire. Donc il a renoué avec ça, avec cette dimension...
Cela étant, Marine Le Pen, avec l'augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans, son programme économique n'était pas loin.
Oui, mais alors, vous voyez, c'est-à-dire que derrière ces orientations économiques et sociales qui peuvent être communes, on a des visions du monde qui diffèrent totalement sur la place de l'islam, sur la question de l'insécurité, sur la question de l'immigration. Et là, vous avez une espèce de partage des eaux qui s'opère avec, pour faire vite, l'électorat populaire des banlieues qui vote Mélenchon et l'électorat populaire de la France périphérique qui opte pour le vote Le Pen.
Alors, une dernière question. Il nous reste une minute, Jérôme Fourquet. Avec cette orientation plutôt radicale, la gauche peut-elle retrouver le chemin du pouvoir, c'est-à-dire la présidentielle ?
C'est très difficile aujourd'hui parce que le centre de gravité de la société penche à droite. Ne pas parler de tous ces sujets-là aboutit à une impasse, mais ce qui est très intéressant dans le phénomène de recomposition, c'est comment Mélenchon et sa garde rouge, hein, tous les Quatennens, Clémentine Autain, etc., etc., ont complètement marginalisé ce qu'on appelait historiquement la gauche de gouvernement, qui fait plus qu'office de bagage accompagné et qui a les plus grandes peines du monde.
Oui, qui est réduit à la portion congrue.
Hein, quand Mélenchon dit « il n'y a qu'une seule Chine », bon, on peut avoir des communiqués de M. Faure du Parti Socialiste, etc. Ça ne passe pas le mur du son. Et c'est, on le voit aujourd'hui, les insoumis, par leur monopole de la radicalité et puis leur nombre et leur organisation, qui ont imprimé leur ligne sur la gauche française. Et donc là, c'est aussi un élément majeur, c'est comment le centre de gravité de la gauche française s'est complètement déplacé sur sa gauche.
Mais est-ce que ça ne la condamne pas à la minorité ?
Bah, pour l'instant, ça la condamne à la minorité. Donc, on a des grandes voix de la gauche, les Bernard Cazeneuve, les François Hollande qui crient au loup et au danger de tout cela. Mais l'histoire ne repasse pas les plats. Et si on en est là aujourd'hui, c'est aussi parce que cette génération-là a sans doute sa part de responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert un boulevard par leur pratique du pouvoir à la gauche radicale.
Une suite à l'archipel français ?
Peut-être, on verra sur la poursuite de cette décomposition-recomposition.
En tout cas, merci de l'avoir
décrypté. Merci de votre invitation.
Alors, c'est le dernier grand entretien de l'été d'Europe 1. Dimanche prochain, 4 septembre, entre 10h et 11h, le retour du rendez-vous politique, du grand rendez-vous d'Europe 1 de Sonia Mabrouk. Merci, bon dimanche à l'écoute d'Europe 1.
Les grands entretiens sur Europe 1.